Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós na Passagem de Nível, neste domingo 19 de dezembro, durante 2 horas na vossa companhia. É que fica em mente, para já iremos falar das eleições relativas antecipadas em Portugal, dia 30 de janeiro. Temos duas convidadas, duas cabeças de lista, Joana de Abreu Carvalho, cabeça de lista da CDU para o Ciclo da Europa e residente na Inglaterra. E depois, Teresa Duarte Soares, cabeça da lista Bloco de Esquerda do Ciclo da Europa, que é professora na Alemanha. Um livro, La Poésie de Portugal, Les Origines au XXe siècle, edição Chandaigne, uma antologia bilingue que reúne perto de 300 poetas e mais de 1000 poemas. Max de Carvalho, poeta, que é o responsável da tradução, seleção e apresentação, irá nos falar sensivelmente por volta das 12h45. A partir da 1, o álbum BD Élise et les Nouveaux Partisans, edição Delcourt, textos de Dominique Garange e desenhos de Tardieu, percurso de uma jovem cantora chegada a Paris em 58, participante do movimento Maio de 68 e que hoje ainda luta pela justiça e igualdade. Os textos de Dominique Garange, os desenhos de Tardieu. E para terminar, teatro musical Os Comadres, de 23 a 31 de dezembro, no Teatro de l'Épée des Bois, Cartoucherie de Vincennes, em Paris, 20 atrizes brasileiras no palco. Uma delas estará via telefone connosco, Júlia Carreira. Mas para já, um muito bom dia, Joana de Abreu Carvalho, e obrigado por estar em direto connosco.
Bom dia, obrigada por me terem convidado e é um prazer estar a falar para a Rádio Alfa e chegar à comunidade portuguesa residente em França.
Ora, precisamente a cabeça de lista da CDU. CDU é uma coligação a Partido Comunista Os Verdes. É licenciada em Biologia e doutorada em Biotecnologia e trabalha no Reino Unido, de maneira que essa imigração já data de algum certo tempo?
Exato. Portanto, eu saí de Portugal em 2007, inicialmente para fazer o doutoramento. Portanto, eu sou doutorada pelo Instituto Superior Técnico, iniciei o doutoramento em Lisboa e depois, através de uma colaboração com a Universidade de Glasgow, saí pela primeira vez de Portugal, em 2007. Portanto, acabei por fazer a maior parte do meu doutoramento no Reino Unido, em Glasgow, na Escócia, e depois, quando terminei a minha educação, mudei para Cambridge, onde trabalhei durante quase 9 anos em diversas empresas de biotecnologia e, portanto, mais recentemente, nos últimos 2 anos e meio, trabalhei na Dinamarca, em Copenhaga, também numa empresa de biotecnologia, e vou agora regressar ao Reino Unido, uma vez mais para Cambridge, para uma vez mais trabalhar em investigação na área da biotecnologia.
Ora, Joana Carvalho, a situação da comunidade portuguesa na Grã-Bretanha, será que agravou-se com o Brexit, é como quem diz, com a saída do Reino Unido da União Europeia? Isso criou enormes problemas à comunidade portuguesa que reside e trabalha na Inglaterra, não?
Sim, pode dizer-se que sim. O Brexit, de facto, foi um fator de alguma instabilidade para a comunidade portuguesa. Portanto, eu dividiria em dois campos. Os imigrantes que já estavam no Reino Unido tiveram a oportunidade de solicitar residência permanente. Aqueles que neste momento decidam emigrar para o Reino Unido terão com certeza mais dificuldades em fazê-lo. Portanto, nesse aspecto, indo em encontro às propostas da CDU para a imigração, a CDU defende um diálogo e acordos bilaterais, este diálogo com cada país de acolhimento, de forma a garantir a qualidade de vida e direitos laborais para aqueles que estão a viver fora de Portugal. E isto é verdade para o Reino Unido, mas é verdade para qualquer imigrante que se encontre na Europa. É a posição da CDU a defesa daqueles que, por necessidade, por opção, mas a maior parte das vezes por necessidade, encontram-se a viver fora de Portugal.
Ora, precisamente, bom, falou-se muito a situação no consulado de Manchester, mas penso que é um bocadinho por todo lado. A presença consular portuguesa ou diplomática no Reino Unido, é verdade que deixa muito a desejar.
É verdade. É verdade, mas infelizmente não é o caso único, o Reino Unido não é um caso único. A política deste governo, mas também do governo do PSD e do CDS, pautou-se por o encerramento de várias embaixadas, vários postos consulares. E posso dar um meu exemplo concreto. Eu, quando estava a viver em Cambridge, estava a 78 quilómetros da embaixada em Londres, o que acarreta problemas evidentes. Em Copenhaga encontrava-me numa cidade que tem embaixada, e isso claro que facilita. Portanto, de uma forma geral, não só no Reino Unido, mas em França, na Alemanha, na Suíça, em Espanha, por essa Europa afora, há cada vez mais uma distância entre os imigrantes e os representantes do governo português e do Estado português. Portanto, eu acho que a minha experiência, e falo em nome de muitos imigrantes que nas minhas palavras com certeza vêm refletido os seus anseios e preocupações, que é esta distância, este abandono que muitos portugueses sentem. E é de encontro este sentimento que a CDU defende uma reorganização e reforço da rede consular, que é fundamental para trazer essa proximidade. É fundamental, é um direito constitucional de todos os portugueses, aqueles que vivem em Portugal, mas aqueles que vivem fora, de ter acesso a este apoio. Acesso aos direitos políticos, acesso ao inglês e ao ensino do português. Portanto, há um conjunto de propostas que a CDU tem vindo a fazer através dos seus deputados na Assembleia da República, que vão de encontro a este sentimento de à falta de palavra melhor, mas acho que é um adjetivo que reflete este abandono, esta distância que infelizmente se sente.
Mas, João de Carvalho, o governo diz, nós, graças às novas tecnologias, já um certo número de demarches podem ser feitas através da internet e por aí fora. Portanto, o governo diz, nós fazemos qualquer coisa. Anunciaram tal, à volta de uma dezena de novos funcionários para os consulados, mas enfim, talvez fossem necessários, ou talvez uma centena, mas enfim. Mas as novas tecnologias não ajudaram nessa aproximação com as autoridades consulares?
De certa forma, claro que ajudam, e o sistema informático obviamente deve pôr-se ao serviço dos imigrantes de forma aproximada, mas não é suficiente. Uma vez mais, portanto, há imensas descrições de portugueses que especialmente durante o Covid se viram impedidos de viajar, por exemplo, porque houve muitos consulados e serviços da embaixada que estiveram fechados durante o Covid, por exemplo, em França isso aconteceu. Uma vez mais chamo o meu caso pessoal para ilustrar com certeza a experiência de muitos imigrantes, que é, apesar de haver o acesso a estes recursos informáticos, e eles são bem-vindos, obviamente, amanhã terei que ir à loja do cidadão porque encontro-me numa pescadinha de rabo na boca que não consigo desbloquear o acesso ao cartão do cidadão e tenho que me deslocar pessoalmente a uma loja do cidadão. E o meu exemplo não é o único, há muitos portugueses que usam as suas férias para tratar de atos consulares que poderiam ter sido feitos, ou que poderão e deverão ser feitos
no seu país.
Exatamente. Porque parece, quer dizer, uma pessoa estando fora parece bastante simples e óbvio que estas coisas se façam, mas na prática isso não é isso que de facto acontece.
Joana Carvalho, evidentemente que durante a campanha eleitoral oficial teremos a ocasião de voltar a falar, mas uma última questão relativamente ao ensino. Nós sabemos que o número de professores foi reduzido à medida em que os anos passavam. Como é que vê essa questão do ensino do português no estrangeiro, nomeadamente aquilo que nos interessa aqui mais diretamente na Europa?
Exato. Portanto, a CDU defende que a língua e o acesso à língua e ao ensino é um direito constitucional. Para nós, para a CDU, isto é um ponto, é um pilar das nossas propostas facilitar o acesso à língua e ao ensino, e facilitar como? Duas maneiras. Uma é as propinas, portanto, serem eliminadas. Não é de forma nenhuma justo que haja um tratamento diferencial do acesso à língua, estando em Portugal e estando fora de Portugal. Portanto, a gratuitidade também dos manuais escolares e a eliminação das propinas, como já referi. E importa dizer que, isto não são só palavras, a CDU fez propostas na Assembleia da República que vão neste sentido e que encontraram, no PS, no PSD, no CDS, votos contra. Portanto, terminaria dizendo que o voto na CDU é fundamental, porque será com certeza consequente na defesa destes valores, na defesa da língua e do ensino, não só dos portugueses, como também dos lusodescendentes. A língua é muito, muito importante. Acho que ser imigrante, acho que só quem está fora de Portugal
é que se dá talvez, conta da situação.
Exato, e sabe o valor que é poder dar aos seus filhos o ensino da língua materna.
A língua materna. Oi, Joana Carvalho, são 40 capinhos, então temos que falar nessa questão, porque há uma grande, grande polémica sobre a questão língua materna ou língua estrangeira, mas enfim. Joana Carvalho, muito obrigada, relembro, é residente no Reino Unido, cabeça de lista da CDU pelo Ciclo da Europa. O número 2 é Nuno Gomes Garcia, residente aqui em França. Os suplentes, Nuno Simões, que mora na Suíça, e Inês Lisboa, que reside na Alemanha. Muito obrigado. E agora esperamos pela campanha oficial.
Muito obrigada, foi um prazer.
Muito obrigado. E dentro de alguns instantes iremos até a Alemanha para termos a cabeça de lista do Bloco de Esquerda. Estivemos na Inglaterra, agora vamos até a Alemanha no quadro das eleições legislativas antecipadas do dia 30 de janeiro. Connosco a cabeça da lista do Bloco de Esquerda para o Ciclo da Europa, a Teresa Duarte Soares. Antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde a todos.
Obrigado por estar connosco aqui em direto. Agora relembro o número 2 da lista, Bruno Fialho, aliás, que residiu aqui durante muito, muito tempo aqui em França. Ora, Teresa Soares, uma primeira pergunta direta: porquê ser candidata do Bloco de Esquerda a estas eleições para o Ciclo da Europa?
Estou filiada no Bloco há alguns anos, acompanhava as políticas do Bloco de Esquerda, e como estou perfeitamente de acordo com as políticas que têm para a imigração, para os portugueses no estrangeiro, como fui contactada para saber se estaria disposta a ser cabeça de lista, aceitei e espero poder fazer alguma coisa, tanto pelo Bloco como pelos portugueses no estrangeiro.
Ora, lembra, é secretário-geral do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, não vamos falar só do ensino, mas, aliás, o seu sindicato, bom, e agora peço à candidata de reagir, relativamente às modificações de leis que afetam a situação dos professores portugueses no estrangeiro, mas para além da situação dos professores, ainda que as coisas podem estar relacionadas, é que a situação do ensino de português no estrangeiro, concretamente aqui na Europa, é bastante crítica relativamente a essa situação.
Ora, realmente a situação é crítica e quando se fala de ensino não se pode separar professores, alunos, ensino, somos, é um todo. A situação realmente é muito má. Os alunos de nacionalidade portuguesa, os alunos luso-descendentes, têm desaparecido de uma maneira espantosa, deixam de frequentar os cursos devido às más condições que lhes são proporcionadas pela atual tutela, é o Instituto de Camões, mas o Instituto de Camões está dependente do governo português, do Estado português, e já vamos no terceiro governo com estes problemas terríveis. Começaram com o governo de Passos Coelho, na altura da Troika. Nessa altura pensava-se, por exemplo, que a propina fosse por causa da situação difícil, económica no país, etc., embora não fosse aceitável. Mas o que é certo é que depois desse governo ter saído, todas as condições que levam as crianças e jovens portugueses a abandonar os cursos continuam cá, ou até nem sequer terem cursos. Não houve nenhuma reversão. Houve algumas reversões em Portugal de decisões tomadas pelo conhecido governo da Troika, por exemplo, recuperação de feriados, haver uma política também para proporcionar condições de regresso aos portugueses no estrangeiro, de regresso a Portugal. No ensino, vamos de mal a pior. Portanto, cada vez menos professores, cada vez menos alunos. Este ensino atualmente está com menos de 50% da dimensão que tinha em 2010, quando mudámos de tutela, quando saímos do Ministério da Educação.
Para o Ministério dos Estrangeiros.
O Ministério dos Estrangeiros via Instituto de Camões.
Mas relativamente a isso, tivemos uma baixa, uma redução enorme de número de professores. Bom, e depois há outras questões anexas, como, por exemplo, ensinar português, língua materna no estrangeiro. Será que isso não passa porque o português entra no currículo, como tínhamos aqui em França, e ultimamente com a reforma do liceu, o português quase desapareceu, e automaticamente o acesso à universidade da língua portuguesa também, de maneira que há uma falta de estratégia em Portugal relativamente ao ensino do português, ou pelo menos o conteúdo, porque sabemos que é uma língua também, que é um trunfo profissional.
Sim, é claro, é um trunfo profissional, sempre foi, e já que falou de universidade, é também importante para o acesso aos nossos jovens no estrangeiro, às universidades em Portugal. Ora, o que se passa realmente é o seguinte: tem havido um total desinvestimento no ensino português no estrangeiro, o orçamento sofreu já vários cortes. Mas uma coisa é a parte económica, outra coisa é o interesse e as políticas de ensino que se utilizam. O português como língua curricular, e isto seria bom que as pessoas entendessem, o português como língua curricular, portanto como disciplina de língua, deve ser a cargo das entidades locais, porque em Portugal o francês também não é pago pela França, não é? O francês é uma das nossas línguas curriculares no sistema português, e os professores são professores portugueses, formados para isso e pagos pelo Ministério da Educação. Na França ou na Alemanha, caso esses países tenham interesse em colocar o português nos seus currículos, e aí é uma questão política também muito complicada, que eu agora estaria uma hora a falar
para explicar
os problemas políticos todos relacionados com isso.
Pois, eu sei, mas Teresa Soares, precisamente, bom, por exemplo, há uma comissão bilateral franco-portuguesa, ela reuniu-se aqui de uma forma clandestina, bom, mas enfim, mas isso são temas que poderemos, e sobretudo avançar com as propostas do Bloco de Esquerda sobre essa questão, quando entrarmos diretamente na campanha campanha oficial, entre aspas. Mas, Teresa Soares, há outras questões, bom, é impossível numerá-las todas, mas pela a questão dos consulados. Sabemos que as novas...
Chegar aos consulados só mais uma pequena coisa sobre o ensino. Portanto, o nosso problema atual é realmente a má qualidade de ensino, o português estar a ser obrigatoriamente ensinado só como língua estrangeira e os alunos, os cursos frequentados por uma maioria de alunos portugueses estão a pagar a propina. Eu sei perfeitamente que em França há cursos de até o 5º ano de escolaridade que já não têm um único aluno português. Os professores são pagos por Portugal. E os cursos são gratuitos. Porquê? Porque estão dentro do horário escolar normal. Os cursos que estão fora do horário escolar normal têm que pagar a propina e são exatamente esses cursos que são frequentados por uma maioria de portugueses. Quanto aos professores, os professores também passaram para um estatuto inferior, porque podiam concorrer para Portugal como se estivessem aqui no estrangeiro, como se estivessem em Portugal, portanto com os mesmos direitos como se estivessem a lecionar em Portugal. Primeiro foram para a terceira prioridade, depois agora estão na segunda prioridade. O que lhes causa grandes dificuldades em conseguirem vincular, conseguirem uma escola certa, conseguirem um emprego estável lá, porque aqui o emprego nunca é estável, aqui o emprego é sempre dependente do número de alunos que, como já disse, continua a diminuir. O que nós temos atualmente é um sistema que dá aulas gratuitas aos alunos estrangeiros e obriga os portugueses a pagar, o que é uma coisa que nenhum país faria e que não se entende.
Bom, agora vamos à questão dos consulados, porque nós sabemos, bom, as novas tecnologias, entre aspas, mas as novas tecnologias não resolvem todos os problemas, porque um certo número de imagens temos que as fazer diretamente nas representações consulares. Essa situação, um certo número de consulados foram encerrados, sucessivamente por diversos governos, de esquerda como de direita. Resumidamente, e qual é a situação na Alemanha? Porque é isso que conheço melhor.
Olha, a situação na Alemanha é exatamente a mesma que a França. Também houve vários consulados encerrados. Nós temos o consulado de Estugarda, que é a área consular à qual eu pertenço, que tem uma dimensão maior que Portugal continental. Portanto, como é que um consulado nestas condições pode servir os cidadãos portugueses? Este foi apenas um exemplo. Eu sei que existem também em França consulados também com umas áreas enormes a servir. Como é que é possível encerrar às 3 horas da tarde e, mais ainda, tem que se fazer a marcação através da internet, como se toda a gente tivesse internet e a soubesse usar. E temos meses de espera. Um cidadão português aqui que quer, por exemplo, registar um filho que nasceu, praticamente não é possível, porque tem que esperar meses e as pessoas optam por registar as crianças nos países em que nasceram, e isso também não é muito, muito recomendável, porque passam a ter até outra nacionalidade. Ora, o outro problema é também na questão do recenseamento, por exemplo. Como é que as pessoas vão votar sem estarem recenseadas com os consulados neste Estado? Os emolumentos também são bastante caros. Um passaporte já vai para cerca de 100 euros. Portanto, uns serviços que se pode dizer que não funcionam. Os consulados não servem de maneira nenhuma à comunidade portuguesa. As novas tecnologias têm as costas largas, como se costuma dizer. A internet não resolve tudo. A internet é uma ferramenta útil, mas não substitui, por exemplo, aquilo que falta nos consulados, que é mais pessoal. Mais pessoal para poder dar mais andamento e para poder dar despacho a tudo o que é necessário e para fazer o atendimento e tudo isso. Realmente, eu sei, e tenho contactos aqui, os serviços consulares estão sobrecarregados. Estão sobrecarregados porquê? Porque as pessoas são poucas, não têm condições para trabalhar e isso torna-se como aquela bola de neve que vai aumentando, não é? Os problemas vão aumentando e não são resolvidos.
Aliás, isso era a última referência que eu faço. Teremos a ocasião depois, durante a campanha eleitoral, de voltar a falar a Teresa Soares. É relativamente ao número de novos funcionários que foi anunciado pela Secretaria de Estado de Berta Nunes. Podemos dizer, e peço-lhe uma resposta rápida, é uma gota de água no oceano?
É absolutamente uma gota de água no oceano. Esses novos funcionários devem estar exatamente na mesma fasquia que os 23 milhões que foram usados para comprar computadores e tablets para distribuição maciça, também foi anunciado pela doutora Berta Nunes, para distribuição maciça pelos alunos e professores do português no estrangeiro, e até hoje ninguém recebeu, fosse o que fosse.
São capazes ainda de estar na alfândega, nunca se sabe. Teresa Soares, obrigadíssimo. Ora, relembro, é secretária-geral do Sindicato dos Professores Lusófonos e igualmente cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo da Europa, e o número 2 é Bruno Fialho. Obrigada, Teresa Soares, muito obrigado, e teremos a ocasião depois de falar durante a campanha eleitoral. Para já, o voto esse deve chegar um dia destes, e vamos lá ver aqui o que se vai passar, porque foi uma dificuldade imensa, precisamente para aqueles que mudaram de interesse, mudaram de morada, e para modificar isso a nível do recenseamento eleitoral, muita gente não guardou o chamado PINA. É como que diz, sem isso é o sésamo. Bom, aí há qualquer coisa que também não anda direito, mas enfim.
Exatamente.
Teresa Soares, muito obrigado e até muito breve.
Muito obrigada, eu, e bom Natal a todos que estão a ouvir.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Eu reviens au direct ce dimanche 19 décembre. Et on va parler de poésie. Et poésie, et quelle poésie, ni plus ni moins. La poésie du Portugal des origines au XXe siècle, une édition de Max de Carvalho, édition Chandaigne. Max de Carvalho, avant tout, bonjour.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir.
Ben, merci d'être avec nous. Alors, 1900 pages environ, hein. Ben, il manquait quelques-unes. Plus de 300 poètes et poétesses et près de 1000 poèmes. Alors, c'est un travail énorme, un travail que ça entre 3 et 5 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le travail a duré effectivement 5 ans et 3 années où je n'ai pas fait grand-chose d'autre, puisque ça m'a requis entièrement. Néanmoins, les années avaient mûri déjà le projet, et donc je n'ai pas eu à découvrir, évidemment, tous ces trésors.
Oui, et d'ailleurs, bon, on peut peut-être remonter à l'année 2012, chez Chandaigne encore, donc Poésie du Brésil, ça a été un travail aussi énorme.
Oui, c'est un travail à peu près du même ordre, avec quelques siècles en moins, donc 300 pages en moins, et beaucoup moins de poètes. Cependant, je crois qu'il y en avait 130 et quelques pour le Brésil, et là, il y en a près de 300, en effet.
Alors, on parle beaucoup de la poésie des troubadours, mais au Portugal, ça existait déjà, ça s'appelait pas comme ça, et avant, un petit peu avant, Cantigas de Bico.
Oui, oui, bien sûr. J'ai essayé de remonter aux sources. Évidemment, quand on fait une anthologie, on essaie d'avoir un point de départ et de se décider pour ce point de départ et de le justifier ensuite par l'architecture du livre et également un point d'arrivée, bien sûr. Donc, c'est l'alpha et l'oméga.
Mais en effet. Oui, pardon.
Je disais, en effet, vous aviez raison de préciser que la période des troubadours, la langue n'est pas encore fixée, puisque nous avons le galaïco ou le galego portugais, c'est-à-dire la source de ce qui sera le portugais par la suite.
Mais quelle était la différence au niveau du contenu entre les deux?
Eh bien, pour ce qui est de la poésie troubadouresque, comme vous le savez, qui a connu son âge d'or, elle était lyrique et chantée. Je pense que après que la partie musicale soit tombée historiquement, le lyrisme néanmoins est resté très ancré au Portugal, comme vous le savez, et sous des formes diverses, parfois par une acceptation, parfois un rejet, mais c'est à l'évidence une veine profonde de la tradition portugaise, le lyrisme.
Alors, il s'agit d'une édition bilingue. Donc, quand on parle bilingue, bon, il y a déjà, il faut commencer par lire les choses, après les choisir, après les traduire. Bon, c'est pas évident, hein, tout ça.
Non, c'est un travail dans lequel il faut essayer de ne pas perdre le bon sens et la méthode, parce que comme je ne me suis pas épargné des lectures exhaustives, c'est-à-dire que j'ai essayé tout de même pour les poètes, pour le cas où cela existait, les poètes contemporains, j'ai essayé vraiment d'étudier leur œuvre et non pas de reprendre ce qui avait déjà été souvent utilisées par des anthologies précédentes, surtout au Portugal, puisqu'en France, vous le savez, il y avait une lacune considérable par rapport à justement ce panorama portugais. Mais pour ce qui est des anthologies portugaises, bien sûr, je me suis appuyé sur elles, mais je n'ai pas toujours, loin s'en faut, suivi les choix, puisque je voulais explorer justement des zones moins connues des œuvres que j'appréhendais.
Oui, justement, parce que finalement, cette publication, ça nous permet aussi de découvrir d'autres poètes. Je mets d'autres, entre guillemets, Max de Carvalho, parce que j'ai mes raisons. Mais enfin, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort?
Non, je crois que vous avez raison. J'en parlais avec un critique portugais et il me disait que, selon lui, cette anthologie, du fait même qu'elle était bilingue, en tout cas pour la poésie, comme vous l'avez dit, pouvait aussi donner un panorama un peu inhabituel pour le lecteur de poésie au Portugal, avec des auteurs qui sont souvent écartés ou ont eu des destinées qui ne les mettaient pas au centre des mondanités littéraires ou des chapelles ou avaient des caractères difficiles. Vous savez, ça dépend parfois de pas grand-chose. Et comme j'étais loin géographiquement et par le fait que je ne suis pas portugais non plus, j'ai eu un regard un peu neuf et donc j'ai pris certaines libertés par rapport à ce qu'on pourrait appeler un canon poétique.
Oui, mais vous êtes poète, Max de Carvalho, ça c'est très important parce que vous avez un regard, une sensibilité différente d'un critique littéraire, même d'un écrivain ou quoi que ce soit.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès lors que, étant moi-même poète, je pratique, je suis pratiquant, j'ai cette expérience intérieure. Cette activité de l'esprit est présente chez moi depuis mon plus jeune âge. Et il est certain que la traduction de poésie, pour moi, est comme un prolongement de cette expérience intérieure. Et j'essaie autant que possible, ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie autant que possible de traduire en essayant vraiment de pénétrer profondément dans l'univers du poète et de l'aimer, même si au premier abord, son travail me touche moins.
Alors, quel a été votre fil rouge? Bon, je pourrais, apparemment, vous l'appelez la matière du Portugal. Donc,
oui.
Peut-être expliquer à nos auditeurs, justement.
Oui, c'est peut-être un peu mystérieux, mais en fait, très simplement, une matière, est, comme il y a la matière de Bretagne qui concerne le cycle des romans arthuriens, ou la matière de France qui concerne les laits de Languedoc, c'est la matière, la tradition littéraire d'un pays. Et dans le cas du Portugal, ce qui m'est apparu pendant ces années de travail, et rétrospectivement par rapport à ce que j'avais déjà traduit auparavant, c'est qu'il y avait vraiment une identité très forte qui affleurait à travers des archétypes, des personnages légendaires, des personnages historiques qui devenaient eux-mêmes légendaires, et aussi des poètes. Bon, Pessoa est un exemple type de ce personnage littéraire bien réel, mais qui devient légendaire et universellement légendaire. Donc la matière de Portugal m'a guidé parce que je voyais qu'à travers les siècles, des thèmes récurrents, des leitmotifs, dirions-nous, revenaient sous des formes à chaque fois adaptés aux esthétiques de leur époque. Voilà, c'est ce que je pourrais en deux mots résumer pour la matière de Portugal.
Alors, il y a l'imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire portugais. Bon, là, on aurait beaucoup à dire. Parce que, bon, je vais prendre deux exemples. Le roi Sébastien, dans Sébastien. Et ça, c'est rattaché à un truc, c'est que le Cinquième Empire. Bon, il y a plein de choses qui apparaissent comme ça dans l'imaginaire portugais, dans les légendes, etc. Et la poésie, ça s'est approprié de toutes ces choses-là.
Oui, c'est une hantise, comme vous dites, qui est tantôt latente et tantôt évidente, et que les poètes se sont appropriés parce que de siècle en siècle, à partir du moment où ce mythe du Cinquième Empire s'est affirmé, cette attente du retour du roi Sébastien, à partir de ce moment-là, les poètes n'ont cessé d'évoquer cette ombre, parffois pour le plus souvent pour l'acclamer ou pour la regretter, et et quelquefois aussi pour la fustiger. Je pense à Manuel Allegri qui dit abat le roi Sébastien, etc. Donc il y a une sorte d'exorcisme. Mais néanmoins, on revient toujours à cette figure étrange et hautement onirique. Donc voilà.
Alors, l'édition, bilingue, bon, c'est pas pour rien, parce que bon, il y a tout un travail qui a été fait aussi avec un certain nombre de personnes qui ont participé, qui ont collaboré, et là, vous avez une équipe autour de vous qui vous a épaulé en quelque sorte.
Alors, écoutez, à dire le vrai, la plupart des traductions qui n'ont pas été faites par moi existaient déjà soit sous forme éditée, soit inédite, et donc j'ai réutilisé, à l'exception de quelques travaux de traduction demandés à Anne-Marie Quin et à Patrick Quillier, qui sont des traducteurs émérites de poésie, comme vous le savez, la plupart des textes ont été repris de l'anthologie de poésie portugaise qui est en Poésie Gallimard, la petite collection de poche, et qui avait été éditée, organisée et largement traduite par Michel Chandaigne lui-même.
Mmh. Oui, il y a Pléiade, puis Pessoa quand même.
Oui, il y a aussi Pessoa en Pléiade, Pessoa qui doit se sentir bien seul, et je ne voudrais pas qu'il soit l'arbre qui cache la forêt, parce que comme vous le savez, en Pléiade, il y a l'anthologie de la poésie espagnole et l'anthologie de la poésie italienne, qui sont les deux autres grandes traditions de langue romane, et le Portugal, qui a une tradition extraordinaire, et qui est tout à fait reconnu en France depuis 4 décennies, puisque non seulement Pessoa, mais beaucoup de poètes contemporains, Elder, Sofia Gemelo Breiner, Eugenio Andrade, Nuno Judis, Antonio Ramos Rosa, ont été traduits par des éditeurs qui, comme Chandaigne, se sont spécialisés dans cette matière de Portugal, ou en tout cas dans la lusophonie.
Mmh. Alors, mais on a, avec votre travail, une anthologie de la poésie portugaise?
Et oui, il était temps, mais c'est curieux qu'elle n'ait pas été faite remarquer. J'en suis heureux parce que, du coup, j'ai le sentiment d'initier un mouvement qui, je l'espère, sera chaque fois plus large pour ce qui est de la vue panoramique, hein, puisque, comme je vous le disais, la lacune, elle est par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'anthologie de cette ampleur, et ni bilingue, alors qu'il y avait des traductions en volume de recueils de poètes portugais du XXe siècle.
Alors, il y a un certain nombre de poètes, bon, c'est 8 siècles d'histoire de la poésie portugaise. On a un certain nombre de poètes contemporains. Vous avez parlé de Manuel Allegri. Pour Manuel Allegri, il y avait aussi un poème de lutte contre le fascisme et tout ça. Oui. Mais, alors, vous avez aussi la collaboration, je pense, de quelqu'un qui est très importante, qui fait partie du mouvement surréaliste. Je pense que c'est la seule qui est encore vivante du mouvement surréaliste portugais. Je veux parler de Isabel Meireles.
Oui, Isabel Meireles, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a 2 ans, et qui était la dernière anthologiste, elle-même poète, la dernière anthologiste de poésie du Portugal pour ce qui est d'une vision d'ensemble, c'est-à-dire que en 1971 apparut chez Gallimard une anthologie de la poésie portugaise qu'elle a organisée. Et qui commençait avec les troubadours et s'achevait avec les poètes contemporains déjà qui commençaient à être reconnus. Je crois que ça se finit avec Luís Aneto Jorge. Et en effet, je suis très heureux d'avoir repris le flambeau 50 ans après. Voilà.
Voilà, 50 ans après. Max de Carvalho, merci. Bon, bien entendu qu'en 1985, le cinquantenaire de la mort de Fernando Pessoa, bon, a fait qu'en France, pas mal de gens ont découvert la poésie portugaise, mais avec vous, alors là, 8 siècles de poésie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je rappelle le livre, La poésie du Portugal, des origines au 19e siècle. Faut dire, bon, que ça a été, couronné par vous, traduite, présentée, etc., etc., aux éditions Chandaigne. Et pour finir, Max Carvalho, justement, bon, un petit poème de Pessoa qui est chanté par Dos Pontes ou Infante. Merci Max.
Merci à vous, Arthur Silva. Merci beaucoup.
Merci et à très bientôt.
À très bientôt.
quero, homem sonha. Obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Se garoto e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi da ilha em continente, clareou corrente até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira. De repente surgir redondo,
de nível com Arthur Silva.
Entame la deuxième heure de passage à niveau ce dimanche 19 décembre. Je rappelle que l'émission est rediffusée dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Et on va parler d'un album BD, Élise et les nouveaux partisans, édition Delcourt, texte de Dominique Grange et dessin de Tardy. Il s'agit tout simplement d'un récit géographique intense qui plonge dans la France des années 60 et aux années 80. Mais justement, on a besoin de connaître ce passé. Et comme chantait justement Dominique Grange, n'effacez pas le passé.
Pour moi, la chanson est une arme, et qu'elle est une arme d'autant plus redoutable qu'on peut la cacher. Elle se voit pas. Donc elle peut passer partout, elle peut rentrer dans l'usine, elle peut rentrer dans la prison, elle peut passer les frontières. C'est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer. Voilà, c'est une arme universelle.
Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en...
C'est une façon de dire, n'effacez pas nos traces. Dominique Grange, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tardy aussi est avec nous. Tardy, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, ce travail, parce que c'est un travail à quatre mains, il faut le dire, on va y revenir tout à l'heure, ça nous plonge, comme j'ai dit à l'instant, dans la France des années 60 aux années 80. Dominique Grange, justement, il faut que les jeunes d'aujourd'hui, il faut que la génération d'aujourd'hui connaisse par où on est passé, et pour savoir mieux là où on va.
Oui, ça me paraît indispensable, parce que toutes les luttes qui ont été menées nous enseignent des choses. elles ont semé des petites graines sur un terreau qui est la conscience politique. Alors la conscience politique, elle s'éveille plus ou moins tôt chez les gens, parfois à l'occasion de quelque chose dont ils sont témoins, ou parfois parce qu'ils entendent parler d'une guerre, d'un conflit, d'un drame. Ils commencent à se poser des questions, donc on doit nous répondre avec ce qu'on a vécu pour que ça s'efface pas, pour que ça reste quelque chose de la mémoire vive, de cette mémoire des luttes qui sont celles de nos pères ou les nôtres. Ou je pense que toutes les générations qui suivent peuvent s'imprégner, se nourrir de tout ce qui a été semé par le passé, comme nous on a été nourris de la Révolution française, la Révolution de 48, la Commune, le Front populaire, ainsi de suite.
La Seconde Guerre mondiale aussi.
Oui, la Seconde.
Voilà.
Alors, Dominique et Tardy, je vais vous demander si vous pouvez éteindre la radio ou baisser le son, parce que on est en trois dimensions là. Dominique Gange.
Mais la radio est éteinte.
Voilà, merci. Alors, Dominique Gange, justement, alors il ne s'agit pas d'une autobiographie, que les choses soient claires, parce que à partir de ce récit, le récit c'est à vous, je parlerai tout à l'heure avec Tardy, de la difficulté qu'il a eue pour traduire ça en images, je m'expliquerai après. Ce n'est pas autobiographique, bien que la vie d'Élise, ça se confond souvent avec la vôtre.
Oui, alors on a appelé ça une autofiction. Je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire, autofiction, mais c'est dans les grandes lignes mon itinéraire, mais je n'avais pas envie de me mettre en avant moi comme tout d'un coup une espèce de personnage qui se donnait une dimension qui se faisait médiatiser sans en avoir envie du tout. Je préférais avoir un personnage qui porte un autre prénom, à qui des jeunes filles puissent s'identifier sans avoir besoin de se demander si c'était une telle ou une telle. Ça m'a donné une espèce d'anonymat et aussi une liberté, une distance par rapport à ce que je voulais raconter. C'est-à-dire que la plupart des événements, l'ensemble des événements sont... Je les ai vécus, j'ai été militante de base d'une organisation d'extrême-gauche, maoïste.
La gauche prolétarienne, oui, la GP, comme on appelait à l'époque.
C'est ça. Et ça, je ne peux pas le cacher ni le nier, c'est une évidence. Donc, les gens qui me connaissent savent bien que c'est une très grande partie de mon histoire. Il y avait des choses sur lesquelles je n'avais pas envie non plus de donner des éléments précis pour savoir si j'étais là à tel endroit, tel jour, où il s'était passé telle chose. Voilà, parce que nos livres sont quand même lus par tout un tas de gens, y compris par la préfecture de police. Enfin, on ne sait pas. Donc voilà, donc être dans le vrai, dans le témoignage, c'est tout le temps un témoignage. Il y a des choses avec lesquelles j'ai pris plus ou moins de liberté pour préserver, une espèce de domaine qui ne regarde pas les flics,
voilà. qui reste tout à fait privé. Alors Dominique, oui. Grange, maintenant, je vais parler avec Tardy. J'ai tendance à l'appeler Jacques, parce que ça s'appelle Jacques Tardy, mais enfin. Alors, Jacques, c'est vrai que ça a été difficile de faire les dessins, de faire les images. Il paraît que Dominique, elle arrêtait pas de parler. Vous avez demandé à un moment donné, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui fais les dessins. Comment est-ce que je peux faire? C'est vrai ou pas, Tardy?
Oui, mais ça c'est une mise au point technique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on écrit, on a tendance à être un petit peu bavard, et le dessin peut remplir une fonction précise qui consiste à réduire un petit peu en montrant les choses. En montrant les choses, à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin du texte. Alors bien souvent, je disais à Dominique, bon, attends, là, on a compris, c'est pas la peine d'en rajouter, et puis en plus de ça, dans les dialogues, questions-réponses, etc., ça peut être un petit peu envahissant, on a besoin de s'aérer, on a besoin de sortir, on a besoin de montrer un petit peu ce qui se passe. Et alors ça, ce travail de représentation des choses, n'est pas différente de celle que je fais quand j'adapte un roman policier, par exemple. Alors, ce sont des repérages, même si le quartier latin n'a pas beaucoup changé, mais malgré tout, j'ai quand même supprimé avec un certain plaisir des McDo, des choses comme ça, qui n'étaient pas en place à l'époque. Et puis voilà. Mais ceci dit, j'ai aussi travaillé à partir de souvenirs personnels, parce que j'ai vécu cette époque-là. J'étais étudiant. J'étais pas militant, moi, mais j'étais étudiant. Je terminais l'école des arts décoratifs, qui est au quartier latin. L'école, plus personne n'y allait. Je zonnais un petit peu au quartier latin et je regardais ce qui se passait. Je participais à des constructions de barricades avec des copains. Je trimballais des grilles d'arbres, etc., etc. Donc j'ai vécu ça aussi, cette époque-là, mais pas de façon aussi engagée que
Dominique. Oui, d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, vous étiez un petit peu avant vos débuts à pilote, hein, c'est ça?
Oui, Pilote interviendra juste après.
Juste après. Alors, Dominique, le livre, bon, il y a un va-et-vient par rapport à cet nombre d'événements, parce que bon, il faut dire que vous êtes originaire de Lyon. Donc, vous êtes monté à Paris pour faire vos études, mais enfin, ça n'empêche que même les expériences que vous avez eues, parce que vous avez travaillé une usine, vous avez été OS2, moi j'étais OS1, vous voyez, donc moi-même, un peu, bref. Donc, ce travail-là, ce contact-là avec les accidents de travail, l'exploitation, les cadences, etc., ça vous a forgé un petit peu dans ce que vous ressentez déjà quand vous étiez plus jeune?
Oui, mais quand j'étais plus jeune, c'était le contexte de la guerre d'Algérie. Donc la première chose à laquelle j'ai été d'abord sensibilisée, c'était la question de l'émancipation des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la décolonisation, surtout de la lutte de l'Algérie pour son indépendance. Parce que j'avais une prof de philo qui était quelqu'un de très engagé et qui nous a donné ces informations-là, qui nous a donné accès à cette réalité-là dont on parlait pas beaucoup dans les familles, sauf si on était dans une famille communiste, qui n'était pas le cas de la mienne. Donc ça, cette prise de conscience-là, elle a été à l'origine du reste. Après, il s'est passé quelques années, bon, j'ai fait quelques disques, j'ai commencé, j'ai fait du théâtre, tout ça, et c'est mai 68, c'est la grève générale.
J'ai l'impression qu'on a été coupé. Tardy, vous êtes là?
Oui, moi je suis là.
Voilà, oui, pardon. Excusez-moi. Non, parce qu'apparemment, bon, on va rappeler Dominique.
Attendez, mais je vais vous la passer, je vous la repasse.
D'accord. Bon, finalement, on garde.
Pardon, mon téléphone s'est arrêté.
Bon, c'est les nouvelles technologies. Bon, de toute façon, on est sous écoute. Il n'y a pas de souci. On est dans une radio, on est sous écoute. Alors, justement, bon, mai 68, parce qu'à mai 68, vous avez dit, bon, mais qu'est-ce que je fais dans cet amphithéâtre, dans ceci, dans cela? Et vous êtes vite fait engagé dans le CRAC. Peut-être expliquer qu'est-ce que c'est le CRAC.
Oui, alors c'était un groupe tout à fait informel qui s'est retrouvé à la Sorbonne avec des chanteurs qui étaient beaucoup des chanteurs de cabaret Rive Gauche, qui étaient mon père aussi, parce que je faisais plusieurs cabarets à ce moment-là. On était tous avec nos guitares, on se demandait ce qu'on pouvait faire d'utile. C'est-à-dire l'idée que notre grève à nous serve à ceux qui luttaient. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les usines. Le CRAC, c'était le lieu un peu de c'est la permanence clinique, et des comités de grève, des comités d'entreprise nous appelaient pour nous dire, venez, il y a un jour, un peu d'heure, etc. Et on chantait dans les tripostos, dans les petites usines, beaucoup de petites usines à la périphérie de Paris. On allait là où on nous demandait du soutien. Et ça, c'est une prise de conscience aussi. C'était tout d'un coup le cœur de la lutte. C'était pas facile parce que souvent les syndicats s'interposaient.
Voilà.
Pour nous empêcher, enfin pas n'importe quel syndicat.
Et la CGT, faut la nommer. Bon, voilà.
Faut la nommer. On la nomme. En disant qu'on n'était pas là pour discuter politique avec les ouvriers et qu'il fallait que nous, on les distraye point à la ligne. C'est-à-dire l'idée que la culture populaire est là pour distraire et pour engager quelque chose de plus profond et pour soutenir une lutte, y compris en disant on y va, on continue jusqu'au bout, on fera la révolution, etc. C'était quelque chose que beaucoup de gens espéraient, y compris dans la classe ouvrière, quand même. Quand il a fallu reprendre le boulot avec l'augmentation du SMIC, mais pas grand-chose d'autre de changer au niveau des conditions de travail, c'était très difficile pour beaucoup d'ouvriers. C'était aller plus loin et en finir avec l'exploitation capitaliste. Ça n'a pas été le cas.
Alors, tout à l'heure, Dominique, vous avez parlé justement de la guerre d'Algérie. De toute la répression, parce qu'il y a eu, de la répression, à commencer par celle qui a été décidée par un fameux préfet de Paris, et que Minérien qui avait collaboré avec les nazis. Bon, enfin, c'est une autre histoire, page noire de l'histoire de France. Mais une date pour moi très importante, c'était 1971, et l'assassinat de l'ouvrier Pierre Gauvernet. 72, pardon.
Oui, c'est 25 février 72, ça va faire 50 ans cette année, en 2022. C'est le camarade, Pierrot était un camarade de mon organisation, et c'était quelqu'un d'anonyme, un jeune ouvrier, voilà, il a été, il a servi de victime à la maîtrise de Renault, qui depuis des jours et des jours promettait. Et aussi à la milice de Renault, promettait une vengeance, promettait d'en finir avec les maoïstes qui étaient à la porte de l'usine, et pour certains aussi à l'intérieur de l'usine, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'ouvriers qui étaient militants. Donc ça, c'est un drame, et c'est aussi un virage. C'est-à-dire que pour nous, se pose à partir de ce moment-là la question de la vengeance, comment venger Pierrot, passer à la lutte armée, pas passer à la lutte armée. On n'est pas passé à la lutte armée, ça c'est le résultat de longues discussions, etc. On n'était pas prêts. Et surtout, je pense que quand on prend les armes, il faut avoir le soutien du peuple, et les gens n'étaient pas du tout prêts à passer à ce type de lutte. Voilà.
Loin s'en faut. Alors, il y a quand même quelque chose de très important, justement, par rapport à la gauche prolétarienne, c'est que vous étiez sur le terrain, vous travaillez une usine, etc. Donc, il y a un moment donné, il y avait un fossé entre vous et les intellectuels, entre guillemets, les théoriciens, parce qu'ils se rendaient pas compte de la situation. Ils vous reprochaient des choses comme faire des fêtes avec les copains du boulot, etc. Donc, vous aviez dit, bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ces gens-là, non?
Oui, absolument, oui. Mmh. En plus, c'était lors d'une réunion, qui s'est faite un peu de façon forcée chez là où j'habitais, et à 11h du soir, alors moi je me levais à 4h pour prendre le boulot à 5h. Donc déjà on voyait bien la coupure des intellos qui passent leur temps en réunion et qui venaient faire des reproches à quelqu'un qui était crevé, quoi. On était crevé. Donc, déjà là, il y avait un décalage dans le rythme de militantisme et de réunion, et puis ce reproche qui était fait, oui, qui m'a petit à petit coupé. Ça, c'était ce groupe-là était dirigé par des gens qui étaient très 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 sectaires et très autoritaires, et ça, je supportais pas. Parce que je suis pas du tout comme ça. C'était pas du tout mon idée, et surtout, c'était je vivais comme les gens de l'atelier, de mon usine. On avait le même ressenti des choses. Oui, on buvait l'apéro le samedi, on se retrouvait, c'était très sympathique, et c'était aussi l'occasion de parler de l'usine et de l'exploitation. Et ça, les intellos qui dirigeaient le truc n'avaient pas compris.
Alors, à l'époque, métro, boulot, dodo, prolo. C'était ça?
Ouais, sauf que moi j'étais. L'usine où j'étais, elle était à Nice, donc il n'y avait pas de métro.
Il n'y avait pas de métro à Nice, oui, bon.
Il n'y avait pas non plus la Côte d'Azur et la promenade des Anglais, parce que je travaillais dans le quartier ouvrier, et ça c'était aussi une découverte. C'est-à-dire l'envers de Nice, avec son bidonville, et les usines. Et les usines où travaillaient beaucoup de travailleurs immigrés. Donc, ça ressemblait pas du tout à la Côte d'Azur. D'ailleurs, je crois pas que je l'ai beaucoup vu pendant tout le temps où j'y suis resté.
Voilà.
C'est comme ça. Mmh. C'est comme ça. C'était pas quelque chose qui m'a empêché de vivre. Bien au contraire, parce que ma vie, elle était plus. Ma vie, elle était justement dans l'arrière-pays et dans le quartier ouvrier où se passaient les choses. Il y avait une forte immigration italienne depuis longtemps, entre autres. Et puis, bon, beaucoup de travailleurs algériens, tunisiens.
Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, bien que bon, je vous cite. N'importe que ma guitare et ma brosse à dents, ça c'est au sujet justement quand vous êtes engagé dans le crack et pour chanter aux ouvriers et tout ça. Alors ça a été écrit dans l'introduction de 1968-2008, n'effacez pas nos traces. Alors justement, j'ai trouvé une trace, moi, parce qu'apparemment ce livre a été présenté au Québec un 4 octobre. À l'association portugaise N'est plus N'est moins à Montréal. Bon, donc le monde est petit, hein.
Oui, mais je m'en souvenais pas. C'est vous qui me l'avez rappelé.
Tout à fait.
Et c'était effectivement, c'était un concert formidable. Mais moi, j'ai chanté à plusieurs reprises pour la communauté portugaise ou pour les comités d'insoumis de déserteurs à Paris. J'ai même chanté un jour, participé à un concert avec José Mario Bravo.
Mario
Branco, pardon.
Tout à fait.
Et c'était voilà, on était aussi en contact avec les travailleurs portugais tout le temps. Enfin, à la gauche prolétarienne, il y avait un certain nombre de camarades qui étaient portugais. Et donc cette réalité-là aussi de la dictature au Portugal et puis ensuite de la libération, de la révolution des œillets était importante. On était très tournés vers ce qui se passait dans les pays des camarades qu'on rencontrait et qui étaient pour la plupart immigrés de divers pays, notamment Portugal.
Mmh. Et d'ailleurs, dans le livre « Élise et les nouveaux partisans », il y a une référence au Chili, parce que Chili, bon, c'est une triste date de l'histoire avec le coup d'état de Pinochet qui a renversé Salvador Allende, mais également une référence à avril 74. Alors, oui. Maintenant, je vais parler un petit peu avec Tardy, parce que bon, il faut lire qu'un certain nombre de livres de Tardy ont été traduits en portugais, notamment, justement, c'était La guerre des tranchées. Alors, Tardy, bon, vous avez pas mal de livres qui ont été traduits en langue portugaise, quand même.
Oui, je sais, oui. Mmh. Et moi, vous comprenez, la Première Guerre mondiale, et puis d'autres périodes comme ça que j'ai abordées, pour moi, qui n'étais pas militant, juste avant de commencer à travailler pour le journal Pilote, ce que j'avais en tête, parce que j'étais quand même acquis à ces idées, mais pas de façon, j'étais faisais pas partie d'une organisation. J'étais acquis à ces idées, et ce que je voulais, c'était les exprimer par mon travail, à l'intérieur de mon travail, c'est-à-dire dire ce que j'avais envie de dire, profiter d'un récit pour raconter, pour évoquer un certain nombre de problèmes. Ce que j'ai fait, notamment avec la Première Guerre mondiale, cette espèce d'indignation, cette espèce de boucherie qui a fanatisé quand même une grande partie de la population mondiale, d'où le nom Première Guerre mondiale, c'est quand même un événement extraordinaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pauvre type qui est pris dans ce conflit-là et parler de lui. Parce que je vais plus m'identifier au pauvre gars qui est absolument en bas de l'échelle. Je vais plus m'identifier à lui qu'évidemment à l'autorité, au chef. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler de la souffrance, de ces gens, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis même à l'intérieur de d'autres histoires qui ne traitent pas forcément de périodes historiques, ce qui m'intéresse, c'est d'amener tranquillement, comme ça, sans perdre de vue mon axe de d'indignation, un certain nombre de choses politiques auxquelles je tiens.
Et d'ailleurs, vous avez. Bon, c'est vrai que votre grand-père a fait la Première Guerre mondiale, je crois.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Et d'ailleurs, même par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, bon, vous avez écrit, fait des dessins plutôt, parce que bien que pour moi, un dessin, c'est égal à un récit. Bon, ça, c'est mon regard, je pense que je ne suis pas le seul. Mais également, vous avez fait, vous avez des dessins pour des romans.
Oui.
Donc, ça sort un petit peu, on est complètement de l'autre côté du thème, là.
C'est-à-dire adapter des romans en bande dessinée?
Oui.
Oui, 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 oui. Mais bon, par exemple, dans les adaptations des romans de Léo Mallet, je suis en porte-à-faux total avec Léo Mallet. Peu importe, ce qui m'intéresse, bon, je garde l'intrigue, elle vaut ce qu'elle vaut, on raconte une histoire, c'est ce qui est censé intéresser les gens. Mais à l'intérieur de cette histoire, je vais caser un certain nombre d'idées, voilà. C'est comme ça que je m'exprime.
Tardy, merci, je vous remercie. Et Dominique Grange, alors, je veux vous remercier aussi. Donc, Élise, les nouveaux partisans, texte Dominique Grange, dessin de Tardy, édition Delcourt. Alors, une petite référence encore, on attend que ça sorte dans les salles. N'effacez pas nos traces, le film avec Pedro Fidalgo. Allô?
Allô?
Oui.
Ah, pardon. Le film de Pedro Fidalgo.
Voilà, oui, n'effacez pas nos traces. Bon, ça va sortir quand pour le moment? Il paraît que ça fait des festivals. Qu'est-ce qui.
Je sais pas. On pense qu'il va sortir en janvier, mais on attend le distributeur. On sait pas encore. On n'a pas encore le programme précis. Mais il va sortir bientôt, je pense.
Voilà, bon, espérons pour qu'on puisse parler à nouveau. Dominique Grange, merci. Pour terminer, justement, alors je vais rester dans le titre de l'album BD, Les Nouveaux Partisans. Justement, c'est ça qu'on va écouter maintenant. Merci, et à très bientôt. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Au revoir.
Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre.
Nous sommes
Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui pavez sur nous, qui dites qu'on sent bourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence.
Nous sommes les nouveaux partisans, grands tireurs de la guerre de classe, le camp du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus, il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus du nôtre, à tous les collabos, nous on fera la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans.
Baladez-vous vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de grâce. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patron qui exploitait et flic qui matraquait, mais à votre oppression nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, conquérants de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Feliz Natal com a rádio que nos liga.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E estamos praticamente a terminar a emissão e não se esqueçam que em Valentin há festa de Noel ao Chateau de Valentin, precisamente. E hoje, a partir das 15 horas, vamos ter fado com Lizzie, igualmente Lizzie, acompanhada pelo grupo clandestino, e danças folclóricas com o grupo Lesírias do Ribatejo, isto a partir das 15 horas, nem mais nem menos, a partir das 15 horas, bom, é o fado pela Lizzie, o grupo Fado Clandestino, e depois o grupo folclórico Lesírias do Ribatejo, um grupo que está sediado, entre aspas, sabem onde? Em Vincennes, nem mais nem menos. É avançando precisamente onde queríamos ir, mas tem a impressão que temos algumas dificuldades. Enfim, já agora vamos até Brissy-sur-Marne, com efeito é hoje, a partir das 16 horas, que vai arrancar mais um encontro mensal da Gaivota, no Château Laurence, 11 Avenue Georges Clemenceau, em Brissy-sur-Marne. Hoje vai ser com a cantora Ana Paula. E agora sim, vamos até Vincennes. Vamos até Vincennes, para quê? Para teatro. Mas a propósito de teatro, aí vem as comadres.
Era um homão? Assuntou-se, era a casa da senhora Germana Luzon do Lar? Eu disse sim, sim, sou eu mesma, sim, senhor. Ele diz que são meus selos! Aqui. Ai, eu me nervei toda!
As comadres, nem mais nem menos, de 23 a 31 de dezembro, no Teatro de l'Épée de Bois, Cartucho e de Vincennes, Paris 12, 20 atrizes brasileiras no palco, numa comédia, bom, mas penso que alguém vai dizer que não é tudo, não é bem isso, que retraça, de uma certa forma, a vida cotidiana, pelo menos de algo, de um grupo de mulheres brasileiras. Júlia Carreira, muito boa tarde.
Boa tarde, que prazer estar aqui com vocês.
Obrigado por estar connosco. Igualmente, faz parte deste elenco. Ora, a história para contar a história é difícil. Há que ver, pura e simplesmente, a peça de teatro. Digamos que uma peça que foi criada em 2010 no Quebec. Já é a segunda vez que falamos do Quebec hoje. Enfim, havia uma versão musical. Entretanto, agora, precisamente, foram acrescentados monólogos, não foi?
Exato, exato. Nessa montagem que foi supervisionada pela Ria Minuschkina, a gente tem as 15 personagens da história original e ainda um coro, né? Um coro que canta junto conosco as 16 músicas do espetáculo. É uma experiência muito especial.
Ora, tudo se passa porque a Germana ganha 1 milhão de selos. Bom,
maneira que ela reúne à sua volta toda uma série, bom, a família, isto, aquilo, todo, amigas e por aí fora, de maneira que, bom, aquilo, depois há um diálogo e por vezes também há uns certos conflitos entre elas, não?
Exato, exato. Elas são muito amigas, né? São vizinhas, parentes, cunhadas, tem as filhas. A gente tem uma personagem, as personagens jovens têm 20 anos e a personagem mais velha tem 93 anos. São todas essas mulheres na cozinha, falando dos seus amores, das suas alegrias, mas também das suas dores, das suas tristezas, dos seus traumas. Então, é uma peça realmente que ela parte da comédia e chega um pouco no drama, enfim, então é um panorama completo mesmo da vida dessas mulheres, que poderiam ser mulheres de uma periferia, de uma grande cidade, em qualquer lugar do mundo, né? Aí está a maestria do Michel Tremblay, que escreveu essa peça em 1965, e desde então ela é montada no mundo todo, né?
Mas entre 1965 e hoje, bom, já evoluímos, ou não sei se andamos para a frente, se retrocemos, mas enfim, será que esses diálogos foram atualizados e, sobretudo, bom, sabemos qual é a situação hoje do Brasil, com o senhor Bolsonaro como presidente, será que esses diálogos evoluíram também ou não?
Pois é, não, infelizmente a gente não atualizou nada do texto da dramaturgia original e ainda assim os conflitos são atuais, né? Eu acho que, embora a gente tenha evoluído de uma maneira geral como sociedade, a gente ainda encontra alguns núcleos em alguns lugares onde a situação das mulheres é bastante desafiadora, onde ainda existe bastante conflito a ser tratado e resolvido, enfim. Então, é uma peça que, quando ela é escrita, ela vem no contexto da Revolução Tranquila no Quebec, que é essa revolução que passa pela educação, pela cultura. Então, a peça retrata as bandeiras daquele momento naquele lugar. Ela fala de aborto, ela fala da inserção das mulheres no mercado de trabalho, das relações abusivas familiares, enfim. E que são, infelizmente, temas que ainda acompanham as mulheres em alguns lugares do mundo, né? Especialmente no Brasil desse momento, como você bem falou.
Ora, a Cafre, bom, então é tudo falado e cantado em português, mas para aqueles que forem até o Teatro de L'Épée de Bois, bom, há uma tradução em francês, não é? Está legendado, como é que as coisas se passam?
Exato, exato. A gente incluiu legendas em francês e é curioso porque, como o espetáculo original foi escrito em joual, que é essa língua de gueto do Quebec, na hora de fazer a tradução para português, a gente procurou assim uma língua que fosse semelhante a essa musicalidade do joual, e agora para a tradução para o francês aqui em Paris foi feito um trabalho que fica entre o joual e o francês popular contemporâneo. Então os espectadores vão poder assistir o espetáculo e acompanhar com as legendas em francês.
Ora, qual é a relação desta peça, As Comadres, Les Belles-Sœurs, que é o título em francês, com o teatro solidário no Brasil? Talvez valha a pena explicar.
Sim, sim. Isso foi uma iniciativa da Ariane Minuschini, da Juliana Carneiro da Cunha, de realizar um projeto no Brasil, aproveitando que naquele momento, em 2017-2018, o Robert Lepage estaria com a trupe do Teatro de Soleil em preparação do espetáculo Canatá. Então, a Ariane e Juliana foram para o Brasil e juntaram esse grupo de atrizes, cantoras, para viver uma experiência de processo de criação com a Ariane no que ela conceituou, nomeou como Teatro Solidário. O Brasil, em 2018, já estava começando a passar por mudanças políticas que levaram à ascensão do Bolsonaro. Então, ela já intuía os problemas que a gente teria em relação à educação, à saúde, à cultura, aos direitos das minorias, à ecologia. Então, ela parte para o Brasil no desejo de insuflar uma chama ali, enfim, a nos ajudar a encontrar um caminho dentro daquilo tudo que estava se anunciando naquele momento.
Ora, a Café, que a Ariane Munchkine, ela guardou a encenação original, não foi?
Exato, exato. ela faz uma supervisão artística da montagem, que é realmente inspirada na montagem de 2010, assinada pelo René Richard Cyr, que fez a adaptação para musical e também assina a encenação. Ela considera que a encenação era tão perfeita para o que se precisava fazer para o espetáculo, que ela nos orientou a fazer isso. Então a gente faz, a gente segue esse modelo, esse sistema de mestre-aprendiz, né, que é muito usado na pintura, de você seguir um modelo para a montagem desse espetáculo. E aí é claro que naturalmente a gente foi colocando, trazendo uma cor brasileira, uma cor do teatro brasileiro, da música brasileira, né, nos arranjos, nas organizações corais, tem muito coral nesse espetáculo, e finalmente na inserção desse coro, que é uma marca do Teatro de Soleil, esse trabalho da coralidade. Então ele surge aí nas comadres, trazendo também essa assinatura da Minusquina.
Ora, Júlia, 20 atrizes, mas vocês não estão todas no mesmo tempo no palco, aparentemente há uma rotação, é isso?
É, quando o projeto foi criado no Brasil em 2018, houve essa necessidade, essa ideia, e que a partir de uma necessidade de uma alternância de atrizes. Como era um projeto que começava sem financiamento, as atrizes precisavam, digamos, ganhar o pão com outros trabalhos. Então a gente tinha um elenco com um número maior de atrizes em relação aos personagens, e a gente fazia essa alternância. E finalmente se organizou que todas as atrizes estariam de fato no palco, mas que aquelas que não estariam jogando os personagens do dia fariam esse coro. Como é um musical, muito sofisticado, com vários naipes, era importante que tivesse um volume de vozes suficiente para dar essa textura, essa cor dos arranjos musicais, né? Que a direção musical é do Vladimir Pinheiro, e agora para a turnê francesa está sendo feita pelo Marcelo Sader.
Aliás, falando em turnê, vocês já estiveram no sul da França e por aí fora. Júlia Carreira, muito obrigada. Lembra as comadres, de 23 a 31 de dezembro, no Teatro de l'Épée de Bois, na Cartoucherie de Vincennes, Paris 12, um autocarro que leva lá diretamente. Bom, isto é para os incultos. Muito obrigado e até muito breve, porque eu adoro a palavra as comadres, sobretudo quando elas começam a dizer mal umas das outras. Eu adoro isso. Mas, enfim, Júlia, muito obrigado e sempre em frente, então. Obrigado.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero vocês todos lá. Um abraço grande.
Muito obrigado. E estamos a terminar esta emissão. Obrigado ao Eduardo Lino. E já agora, meus amigos, bom, Feliz Natal. Temos que passar por aí, né? Obrigatoriamente, puxar pelos cordões à bolsa. Esta história de dar prendas. O melhor é não receber prendas, assim não é obrigado a dar. Bom, é outra história. E eu dou-vos encontro no, espero bem, no próximo domingo. Vai ser dia 26. O dia a seguir ao Natal, ainda bem. Para o dia 2 de janeiro, e vai ser um bocado mais difícil, mas enfim. Muito obrigado, e já agora, porque não, vou-vos deixar precisamente com as nossas comadres. Bem, acham.
Era um homão? Assuntou-se, era a casa da senhora Germana Luzon do lar? Eu disse sim, sim, sou eu mesma, sim, senhor. Ele diz que são meus selos! Aqui. Ai, eu me nervei toda!
A casa vai ficar novinha, fogão, mobília e jogo de cozinha. A geladeira azul e um belo faqueiro daqueles bons. Já escolhi, eu vou levar janeiro e pá, tigelas pra guardar açúcar, chá, café, farinha, o que eu quiser.
Como é que ela ganha? 1 milhão de selo e não eu. Como é que é isso?
A minha vida é escrota.
Fica bem, fica bem.
Nosso lado estavam todos nos reis, Jair e Rita dos Reis, sua mulher e até a Carminha Muniz e Joel Muniz, Pedro Muniz, Siri e Rita, Vastácio, o bom
vocês que eu já encontrei os 7 erros no jornal do mês que passou. Eu decidi.
Passagem de nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.